Michel Chevalier, vous êtes guide conférencier au service du patrimoine de la ville de Briançon. On va
Bonjour.
parler. Bonjour, pardon.
Oui, bonjour à tous.
On va parler aujourd'hui des caractères transalpins du Briançonnais.
Alors, que le Briançonnais se trouve au cœur des Alpes occidentales et peut être considéré en position un peu contraignante, entouré par tous ces grands massifs, des Écrins à l'ouest, du Viseau à l'est, des Cerces Tabor au nord. Eh bien, hormis cette position qui pourrait paraître pénalisante, finalement, on peut montrer que paradoxalement, le Briançonnais fait un lien de part et d'autre de la chaîne alpine occidentale, entre Genève au nord, Nice au sud, Grenoble au nord-ouest et Turin au nord-est. Alors ce lien se voit bien du point de vue historique, géographique et même politique et économique. Soit finalement le Briançonnais considéré comme un pont entre la France et l'Italie aujourd'hui.
Et comment cet espace est-il vécu dans l'histoire ?
Alors il faut remonter à peu près il y a 3000 ans, soit 1000 ans avant Jésus-Christ, où la première occupation du territoire de montagne qui va devenir le Briançonnais, après notamment la libération par les glaciers qui occupaient toute cette zone il y a environ 15 à 20 000 ans, eh bien cette occupation précoce du territoire a lieu grosso modo il y a 3000 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ, donc par des peuplades ligures notamment. Alors déjà, le fait que des Ligures s'installent dans cette zone de montagne des Alpes occidentales, qui en est à peu près le centre, montre bien que l'on n'hésitait pas à remonter la vallée du Pô depuis la côte ligure, justement la côte de Gênes, aujourd'hui italienne. Ce qui nous fait bien voir sur une carte de géographie que finalement Briançon est plus près de Savona, en Italie, que de Marseille, en France. Et par là même, on voit là déjà des échanges qui préfigurent de ce caractère transalpin, c'est-à-dire qui fait le lien de part et d'autre, finalement, du réseau hydrographique des terres qui se dirigent vers le Rhône et de celui qui se dirige vers le Pô. Donc une installation précoce de Ligures et puis ensuite de Romains, qui d'ailleurs ont toujours développé le passage par notamment le col de Montgenèvre, sur lequel on reviendra après. En plus de cela, notamment au Moyen-Âge, une économie très florissante se développe dans le Briançonnais, après que finalement, pendant l'époque de l'Antiquité, on ait bien débarrassé les terres d'un amoncellement considérable de cailloux, de rochers, de projectiles qui venaient de cette érosion glaciaire et que l'on puisse véritablement développer cette activité agricole qui est surtout liée à des cultures qui montent assez haut dans les versants exposés au sud, à l'Adrée, à de l'élevage qui occupe une grande partie de la population dans les alpages entre le mois de juin et le mois de septembre, l'exploitation forestière qui s'ensuit et des eaux. Et tout ceci procure de nombreux échanges et notamment à Briançon, mais aussi au Monetier-les-Bains, à Val-Louise et dans d'autres contrées, des foires au caractère très important, voire même exceptionnel, qui pouvaient durer plusieurs jours, et qui remontent donc au Moyen-Âge, et pour l'installation et la tenue desquelles, il y avait déjà en lien avec le Dauphiné historique, qui est la province de notre zone du Briançonnais, des accords de franchise, pour pouvoir avoir des facilités d'échange. Et donc Briançon était bien placé à ce niveau-là. Ce qui a développé une grande caste de négociants, de banquiers, et qui étaient des bourgeois. Et ces bourgeois locaux, très entreprenants, ont vu que la position du Briançonnais, à cheval finalement entre le bassin versant du Rhône et celui du Pô, n'était pas à garder entre soi, mais à bien défendre, à bien développer, à bien négocier avec le dauphin. Il se trouve que le dauphin de l'époque, nous sommes en 1343, c'est le dernier de cette lignée des dauphins, enfin il ne pouvait pas encore tout à fait le savoir, mais il y avait quand même des éléments qui y concouraient, parce qu'il n'avait pas de fils pour lui succéder, il s'appelait Humbert II, et à l'époque c'est le droit d'aînesses et des garçons qui priment, parce que la société n'est pas très paritaire, malheureusement, à l'époque. Et surtout, ils n'avaient plus d'argent, hein. On l'appelait un berdeux aux mains percées. Alors, que font les Briançonnais, hein, qui sont très en pointe pour faire les comptes, hein? Il y a un petit adage historique, hein, qui dit qu'à Gap, où on travaille beaucoup, on pose tout sur le ventre, hein, parce qu'il faut évidemment bien se nourrir pour travailler. À Embrun, où on est cité archiépiscopal, on met tout sur le dos, hein, pour bien paraître. Et à Briançon, où on sait bien négocier, on met tout dans les poches. Donc les Briançonnais, les consuls locaux de Briançon et des vallées attenantes, hein, donc une cinquantaine, 51 en tout, ont envoyé une délégation, hein, avec des notaires, bien entendu, et des secrétaires, pour aller rencontrer un berdeux et négocier avec lui une charte, hein, eu égard à cette position très enviable à l'intérieur des Alpes. Et cette charte, appelée la charte des libertés briançonnaises, des privilèges briançonnais ou des escartons, a été signée le 29 mai 1343 en présence du dauphin à Beauvoir-en-Royans entre Grenoble et Valence, qui était à un moment la capitale de ce Dauphiné. Ce qui fait que les Briançonnais ont su coordonner à partir de Briançon, et pour 51 communautés autour de Briançon, un système à la fois économique, social, politique, relativement indépendant, pas tout à fait quand même, donc plutôt autonome, dirons-nous, devant quand même des comptes au dauphin, puisque cette liberté, cet affranchissement et cette bourgeoisie, qui sont les trois critères principaux de cette charte, évidemment, sont à paiement, hein. Il faut expliquer que nous sommes au Moyen Âge et que, bien entendu, la France n'est pas une république avec une constitution qui garantit à tous la liberté et l'égalité face aux droits et aux devoirs de façon gratuite. Évidemment, à l'époque, ces privilèges, car c'est considéré comme des privilèges que d'être libre et égal, ce qui aujourd'hui quand même nous fait beaucoup réfléchir, eh bien ceci était à paiement à l'époque, dont les Briançonnais ont payé en fonction de leurs revenus, sous l'impulsion d'une bourgeoisie très entreprenante, qui faisait vraiment figure de grande avance à l'intérieur du Dauphiné, hein, une grande anticipation historique et économique. Ce qui fait que la société s'en portait pas plus mal et qu'elle était consciente dans le Briançonnais d'être vraiment en position de phare, si on peut dire, à la montagne, hein, c'est un peu paradoxal, dans les Alpes. Alors, une fois que cette charte a été faite, bien sûr, il y a 38 articles, donc la liberté, l'affranchissement et la bourgeoisie, ça n'est pas que l'essentiel de cette charte, même si c'est important, il y a aussi des droits coutumiers et quotidiens qui sont développés dans cette charte, les droits aux canaux, à l'entretien des rivières et des forêts, à la lutte anti-érosion, anti-avalanche donc, et crue. Et donc tout ceci fait des Briançonnais des hommes et des femmes très responsables, puisque cette charte s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes qui ont les mêmes droits. Et j'insiste là-dessus, c'est quand même extrêmement important. Nous sommes en 1343. Qu'est-ce qui a permis de faire une charte qui véritablement place le Briançonnais en position de plaque tournante dans les Alpes occidentales? C'est que, bien sûr, il y a les grands principes de la charte qu'on vient d'énoncer, mais il y a aussi que c'est un pays où on est éduqué, où on est instruit. Car même si la charte est enviable et que la position du Briançonnais est transalpine, entre le massif des Écrins à l'ouest et celui du Viso à l'est, via des cols comme le Lautaret et le Mont Genèvre, assurant un passage assez aisé, du moins à la belle saison, ça ne suffit pas à avoir une économie locale florissante si on ne se déplace pas. Donc il faut qu'il y ait des migrations. Et la foire, c'est déjà un système migratoire de forains qui viennent de partout dans le Briançonnais. Le Briançonnais est à la fois rayonnant et polarisant, c'est-à-dire qu'à la fois il est connu à l'extérieur et il attire vers lui. Et il attire des forains qui viennent du bassin parisien, des Flandres, de Venise, de la côte méditerranéenne, bien entendu, de la vallée du Rhône, mais encore même de toute la vallée du Pô et d'une partie de l'Italie. Donc c'est quand même très important pour Briançon que d'avoir cette charte-là, une sorte de zone franche en quelque sorte pour une économie florissante, on l'a déjà entreaperçu, mais aussi pour l'écrire cette charte et la faire perdurer. Quand vous avez des droits, vous avez envie que ça dure, surtout quand ils sont favorables, hein, puisque ce sont des droits. Et donc, il faut être éduqué, il faut être instruit. Et donc, les jeunes briançonnais et des communautés avoisinantes, puisqu'ils sont 51 dans cette charte des Escartons à être concernés, hein, 51 villages et la ville de Briançon qui en était la capitale, ces jeunes partaient pendant l'hiver, à partir de l'âge de 14-15 ans, hein, faire les ouvriers agricoles dans les régions de plaine, les ouvriers citadins pour les villes principales autour de Briançon, mais quand même assez loin, puisqu'on est très à l'intérieur des montagnes ici. Et ce faisant, ils mettaient leur salaire dans des banques qui faisaient des intérêts, ce qui leur permettait d'acheter des matières premières en remontant au pays, d'en revendre un peu au passage, mais d'en amener aux familles et qui les travaillaient. Les hommes faisaient de l'artisanat, les femmes filaient la laine des moutons que l'on avait en troupeau ici, évidemment, laine très vendue aussi pendant les foires, et ça permettait la saison d'après de repartir avec des objets qui ont été transformés, filés, assemblés, et de les revendre, et d'entretenir un système économique très ouvert vers l'extérieur, et préfigurant un peu d'un léger capitalisme, ou d'une mini-mondialisation, hein, puisque les gens des montagnes sont partis après, plus tard bien entendu, au XIXe siècle, jusque même en Afrique, en Asie et aux Amériques. Donc ceci est peut-être une préfiguration de ce qui se passera plus tard. Donc un pays transalpin, un lien avec l'intérieur et l'extérieur, lié à la fois à des échanges économiques, à des échanges humains, bref, à des flux qui sont des flux économiques, financiers et migratoires.
Et quels sont les éléments géographiques qui conservent à faire cet espace transalpin?
Alors, évidemment, il y a l'histoire, mais il faut s'appuyer aussi sur le socle. Et le socle, c'est la géographie et la géologie. Alors, on remonte un peu dans les temps géologiques, hein. Pas si loin que ça, mais quand même, hein, la plaque continentale Baltica, finalement, de l'Europe au sens large du terme, dans l'histoire, a subi elle aussi, évidemment, quelques poussées. Il se trouve qu'à son sud, une petite mer intérieure va préfigurer de l'emplacement des Alpes. Et que voici, à peu près il y a 100 millions d'années, une partie de l'Afrique du Nord, correspondant à peu près à ce qui va devenir les Maures, l'Estérel, l'Italie, les Balkans, la Grèce, et la plupart des îles de Méditerranée migrent vers le nord et va percuter cette plaque européenne. Et de cette percussion vont naître les Alpes par subduction, c'est-à-dire que finalement ce qui va arriver d'Afrique, percutant la plaque européenne, va s'enfoncer dessous tout en la relevant. Et il s'ensuit à la fois une surrection, c'est-à-dire les espaces s'élèvent, mais aussi une érosion en même temps que ça s'élève, puisque les éléments notamment atmosphériques, le vent, la pluie, la neige, le gel, le dégel, attaquent évidemment les espaces qui se soulèvent au fur et à mesure. Mais quand même, on gagne en hauteur, même si l'érosion est présente. Donc les Alpes vont naître, et finalement les Alpes ne sont pas à considérer comme véritablement une séparation à l'intérieur de l'Europe, mais au contraire comme l'union entre la plaque européenne qui à ce moment-là était un peu stabilisée et une partie de la plaque africaine qui s'est décrochée. Autrement dit, les Alpes, c'est la frontière entre l'Europe et l'Afrique. Mais qui dit chaîne de montagnes dit relief puissant, entrecoupé de passages qui sont des vallées, au sommet desquels se situent aussi des cols. Et donc, il ne faut pas voir dans les Alpes qu'une barrière, même si elle paraît une barrière de loin quand on la regarde de haut. Il faut la voir aussi comme un passage. Et c'est là qu'on retrouve notre Briançonnais, parce que toutes les contrées alpines ne sont pas aussi ouvertes que ce que l'est le Briançonnais, avec en prime la ville de Briançon au cœur d'un carrefour de vallées correspondant à un carrefour routier très ouvert vers l'extérieur par les vallées que nous avons un peu indiquées, la Guisane, la Clarée, la Durance, la vallée de Valouise. Ça, c'est la cellule intra-alpine, à l'intérieur du Briançonnais, entre les massifs des Écrins et du Viso et du Thabor. Mais il y a aussi ce qu'il y a de l'autre côté, parce que l'école principale était plutôt à l'est de Briançon, c'est-à-dire le col de l'Échelle, le col de Montgenèvre, le col de Bousson, le col d'Izoard, le col Agnel. Et donc ces cols plutôt sur la façade orientale, à des altitudes diverses et variées. Évidemment, les cols de l'Échelle, de Montgenèvre et de Bousson sont le trio qui permet aux Briançonnais l'essentiel de ces échanges, parce que ce sont des cols assez bas, alors que la région est plutôt haute, hein, songez un peu. Le Briançonnais, c'est une altitude moyenne de 2100 mètres, au-dessus, évidemment, du niveau de la mer. Le Queyras est encore un peu plus haut, hein, 2250 mètres. Tout ceci forme les escarpements Briançonnais, hein, comme on l'a dit. Le Briançonnais, le Queyras, la vallée d'Oulx-Bardonnech, la vallée de Pragelas jusqu'à Pignerol à un moment, qui fut française, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, et l'escarton aussi de Château-Dauphin. Donc le système des escartons concernés par la charte dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est une entité de cinq systèmes de vallées. Donc tout ceci est lié à une position à l'intérieur des Alpes très favorable, qui fait du Briançonnais une cellule intra-alpine autour de Briançon, certes, mais qui, grâce à ces cols que l'on fréquente plus volontiers du côté oriental, relie favorablement, bien que le Briançonnais soit tourné vers le Dauphiné, que sa capitale à un moment fut Grenoble, tourné vers la Provence par la vallée de la Durance, le Briançonnais est quand même plus près, géographiquement, de Turin et du Piémont. Et donc, ces échanges-là furent considérables dans l'histoire, à tel point que le Briançonnais, ça n'était pas que autour de Briançon, mais aussi de l'autre côté de ces cols, et on l'appelait, avec un mot de vocabulaire qui me semble assez exotique dans cette version transalpine des lieux, on appelait ces vallées-là les vallées de l'Outremont. Hein? Donc je trouve que c'est assez charmant. Hein? Aujourd'hui, on parle bien de l'Outre-mer, hein, de l'autre côté de la mer. Eh bien, on parler de ces vallées comme l'Outremont. Et on en était tellement proches que, évidemment, les familles étaient à peu près les mêmes de part et d'autre de la montagne et qu'on avait un sentiment d'appartenance très fort de part et d'autre du col de Montgenèvre notamment et d'aller vers la capitale où était conservée la grande charte et ses minutes, c'est-à-dire ses reproductions contemporaines. Toujours visible aujourd'hui, cette grande charte restaurée à la mairie de Briançon, aux archives municipales, qui seront déplacées au mois de septembre vers la nouvelle médiathèque et service d'archives de Briançon dans le quartier cœur de ville. Donc tout ceci montre bien que le Briançonnais est à la fois tourné vers la France et vers l'Italie.
Et donc, ce Briançonnais ne serait-il pas un trait d'union européen?
Ainsi, grâce peut-être à ce que nous avons indiqué, on peut considérer qu'un peu avant l'heure, finalement, grâce à cette volonté humaine liée dans un premier temps à une bourgeoisie de marchands, de banquiers, mais aussi grâce à la population tout entière, très laborieuse, grâce également aux éléments historiques, géographiques, politiques qui s'en sont suivis, on peut considérer que le Briançonnais est un petit laboratoire qui, peut-être sans le savoir à l'époque du Moyen Âge, et même un peu avant encore à l'Antiquité, a contribué à développer, à défaut d'un sentiment européen, du moins une dynamique qui était tournée à la fois vers le Dauphiné, vers la Provence et vers le Piémont. Et ce qui fait que quand on regarde Briançon, bien sûr, depuis Paris, on peut être loin des grands axes de circulation aujourd'hui ou des grandes plateformes des échanges économiques. Mais quand vous regardez Briançon et le Briançonnais depuis les Alpes, notamment dans les Alpes occidentales, puisqu'on divise les Alpes en trois parties, hein, les occidentales entre la France, l'Italie et la Suisse de l'Ouest, les centrales pour la Suisse et l'Italie et une partie de l'Autriche, et les orientales pour la partie est des Alpes italiennes et l'Autriche dans sa grande majorité. Donc le Briançonnais, lui, joue un rôle dans sa partie des Alpes occidentales, mais il joue un rôle quand même. Donc je pense qu'il était important de signaler que ce Briançonnais, que l'on voit quelquefois comme assez retiré à l'intérieur des terres, ça, c'est une vision urbaine. Et finalement, une cellule intra-alpine, mais plus que ça, hein, un pays de montagne qui est beaucoup plus ouvert que ce qu'on ne croit et qui stimule aujourd'hui, heureusement, un apprentissage de la langue française et italienne, bien entendu, et qui stimule des échanges, notamment liés à des jumelages. Hein. Briançon est jumelé avec Susa, plus éloigné, Gap l'est avec Pinerolo, bien que nous ne soyons pas dans le Briançonnais, mais c'est le département. Donc il faut en faire évidemment de cette zone briançonnaise une zone qui concerne évidemment un espace plus grand pour mieux se faire reconnaître. Hein. Il ne faut pas rester simplement enfermé dans cette cellule et aller voir un peu ce qui se passe au-delà. C'est pourquoi finalement les flux et les migrations ont toujours été partie prenante de cette zone et que on ne sera pas étonné si le Briançonnais, ses cols, ses vallées ont toujours été un lieu de passage depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui et certainement encore demain.
Merci beaucoup, Michel.
Avec plaisir et à une autre rencontre.